politique, Richard Labézière.
Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale de Géopolitique consacrée aujourd'hui à la Syrie, aux relations bilatérales Paris-Damas, Damas-Paris et à la participation du président syrien Bachar al-Assad au lancement de l'Union pour la Méditerranée ce dimanche 13 juillet à Paris. Lancement précédé par une réunion de travail consacrée justement au rétablissement des relations bilatérales entre la France et la Syrie. Comme les autres chefs d'État participant à cette nouvelle Union pour la Méditerranée, Bachar al-Assad est l'un des invités aux cérémonies du 14 juillet. Cet invitation marque un rétablissement spectaculaire des relations franco-syriennes, syro-françaises, gelées sinon en crise depuis 5 ans. Alors quelles seront les conséquences de ce rétablissement pour les deux pays, pour le Liban voisin de Damas et pour l'ensemble de la région? Que faut-il attendre des négociations indirectes ouvertes entre la Syrie et Israël en mai dernier par l'intermédiaire de la Turquie? Enfin, comment cette situation nouvelle peut-elle influencer les autres crises régionales en Irak et en Iran notamment? Autant de questions abordées très directement avec le président syrien Bachar al-Assad lui-même au cours d'un entretien qu'il nous a accordé pour RFI et TV5 Monde, mardi dernier au Grand Palais du Peuple à Kassioun sur les hauts de Damas. En deuxième partie de Géopolitique, nous retrouverons Hervé de Charette, qui fut ministre des Affaires étrangères du gouvernement Juppé entre 1995 et 1997. Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à Damas, à quelques jours de votre visite à Paris. Monsieur le Président, après 5 ans de gel, sinon de crise, la relation franco-syrienne, la relation syro-française se rétablit. Quelles sont les raisons de ce rétablissement diplomatique spectaculaire? En fait, que s'est-il passé?
D'abord, je vous souhaite la bienvenue en Syrie. Il n'y a nul doute que le changement d'administration et l'arrivée du président Sarkozy aux commandes ont pesé d'un poids décisif dans ce changement. Nous avons repris des contacts directs depuis environ 8 mois. Un dialogue syro-français s'était engagé autour du dossier libanais pour trouver une issue à la crise, sans grand succès au départ, par manque de compréhension de la position syrienne, une position qui prend en compte les réalités de notre région, que ce soit en Syrie, au Liban ou dans toute la région. La suite des événements a confirmé la justesse de la position syrienne et que la Syrie désire le juste règlement des crises persistantes, que ce soit au Liban ou concernant le processus de paix. Surtout après l'ouverture en Turquie des négociations indirectes entre la Syrie et Israël, je pense que l'ensemble de ces évolutions a donné un nouvel élan aux relations franco-syriennes. Il y a en plus l'initiative française concernant l'Union pour la Méditerranée.
On va y revenir, Monsieur le Président, mais après l'accord de Doha, l'élection de Michel Sleiman à la présidence de la République libanaise le 22 mai dernier a débloqué la situation, vous venez de le rappeler. Maintenant, que va-t-il se passer plus concrètement dans la relation syro-libanaise et quelles conséquences sur les relations franco-syriennes ?
Les relations libano-françaises sont des relations historiques et importantes pour le Liban. Et la Syrie ne s'oppose en rien à cette relation car elle y voit un élément positif. En même temps, la relation syro-libanaise est une relation privilégiée et aucun État au monde ne devrait s'y opposer. C'est une chose que la Syrie comprend, il est normal que la France l'admette aussi. La relation entre ces trois pays a une singularité particulière, mais ceci ne signifie pas que la relation entre la Syrie et la France doive obligatoirement passer par le Liban. Ni que la relation entre la France et le Liban doivent passer nécessairement par la Syrie. Voici notre conception de l'impact des relations syro-libanaises sur nos relations avec la France. D'un autre côté, l'instabilité au Liban est une menace pour la région. Il est donc naturel que la France se préoccupe de la stabilité de cette région à travers son action en faveur du règlement de la crise libanaise. C'est quelque chose de normal, que nous comprenons, et qui sert les intérêts de la France, comme ceux de la Syrie, ce qui veut dire qu'il y a une communauté d'intérêts entre les deux pays à ce sujet.
Concrètement, encore plus concrètement, Monsieur le Président, dans quel délai pensez-vous pouvoir ouvrir une ambassade de Syrie à Beyrouth?
En vérité, c'est moi qui ai proposé cette idée et non les Libanais, il y a 3 ans, en 2005. Mais entre-temps, les relations entre les gouvernements des deux pays se sont détériorées. D'ordinaire, pour établir des relations diplomatiques entre votre pays et un pays tiers, il faudrait qu'il y ait d'abord entre eux des relations positives. Si vous avez une ambassade dans un pays avec lequel vous avez des rapports négatifs, vous pouvez être amené à fermer ladite ambassade. Pour notre part, nous avons lié l'ouverture d'une ambassade à la formation d'un gouvernement d'union nationale au Liban. Vous savez que durant ces dernières années, les Libanais étaient divisés autour de plusieurs dossiers, dont celui du gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, si un gouvernement d'union nationale se constitue, il pourra alors engager un dialogue direct avec la Syrie autour de cette question. Sur le principe, nous n'avons donc aucun problème. Quant au délai, il reste tributaire d'un passage de l'état des relations actuelles, géré par un conseil syro-libanais à l'ouverture des ambassades. Je ne crois pas que cela prendrait beaucoup de temps, mais pour l'instant, nous n'avons pas fixé de calendrier à ce sujet, car nous n'en discutons pas encore.
Monsieur le Président, vous participez le 13 juillet au lancement de l'Union pour la Méditerranée. Qu'attendez-vous de cette initiative et quels sont les intérêts de la Syrie dans cette Union pour la Méditerranée ?
L'idée est excellente. Dans le principe, l'idée est excellente. Excellente pour l'Europe, excellente pour les pays du sud de la Méditerranée, dont la Syrie. Nous allons en tirer profit comme les autres pays. Il y a deux volets essentiels dans ce sujet. Le premier est un volet économique et le second est le volet politique. Au départ, l'initiative était essentiellement économique, peut-être parce qu'ils imaginaient que l'économie permettrait d'établir la paix. C'était l'esprit de l'initiative de Barcelone lancée au milieu des années 90. Cette approche s'est révélée irréaliste. Nous avons donc demandé, en tant que partenaires arabes, à ce que le volet politique soit considéré comme central. Je crois que pour que nous puissions tirer profit économiquement de cette initiative, vous au nord de la Méditerranée et nous au sud, il faudrait que la paix devienne une réalité. D'où l'importance du volet politique dont l'objectif est la paix. Ce que nous attendons, c'est plus de développement, de progrès et de prospérité. Et ensuite, le règlement de nos problèmes, et en particulier l'instauration de la paix au Moyen-Orient. J'estime que la mise en œuvre de ces deux volets permettra une avancée sur d'autres volets, comme la culture et l'environnement.
Justement, Monsieur le Président, sur la question de la paix, Israël est également invité à participer à l'Union pour la Méditerranée. En mai dernier, vous avez fait état de discussions indirectes avec Israël. Où en sont ces discussions et surtout dans quelles conditions et quelles conditions faut-il réunir pour l'ouverture de discussions directes avec la partie israélienne désormais?
La formule de négociation indirecte signifie tester les intentions de chaque protagoniste, surtout après 8 années de paralysie du processus de paix et après l'agression israélienne contre le Liban en 2006, ainsi que plusieurs agressions contre la Syrie de la part d'Israël. Il n'y a pas de confiance. Nous devons donc la reconstruire et définir une base commune entre les deux parties pour pouvoir passer aux négociations directes. Nous n'en sommes qu'au début des négociations indirectes. Il y a déjà eu 3 sessions dont l'objectif est de définir les principes généraux régissant les négociations directes. Pour nous, la question centrale, c'est la récupération de notre terre. Il ne s'agit pas là d'une condition syrienne, il n'y a point de condition syrienne, mais il y a des résolutions internationales qui devraient servir de référence. Nous essayons de nous accorder avec les Israéliens quant à ce cadre de référence constitué par les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la 242, qui préconise le retour à la Syrie de ses territoires occupés. C'est la seule condition, c'est une condition internationale et non syrienne. Si nous nous accordons sur ces questions, le retour de la terre et les arrangements de sécurité, le règlement des problèmes restants en sera grandement facilité dans le cadre des négociations directes. C'est un aspect des choses. L'autre aspect, c'est que pour passer à des négociations directes, nous avons besoin d'un parrainage international, à commencer par celui des États-Unis, et bien sûr, nous sommes favorables à un rôle européen complémentaire. Il ne s'agit pas là d'une condition, mais d'un préalable nécessaire à la réussite des négociations, et pour le moment, rien de cela n'existe.
Au-delà du calendrier politique électoral américain, quel rôle vous aimeriez que l'Europe, l'Union européenne et la France jouent dans cette médiation et dans l'établissement de ces négociations directes avec Israël ?
Puisque nous ne pouvons pas atteindre la paix sans un rôle américain, on ne peut pas encore parler de rôle européen actuellement. C'est pour cela qu'il est nécessaire que nous attendions l'arrivée d'une nouvelle administration américaine, porteuse d'une vision de la paix et d'une volonté de la concrétiser, qualité qui manque à l'administration actuelle. Lorsque nous aurons affaire à cette nouvelle administration américaine, nous pourrons alors évoquer le rôle européen direct dans ce processus de paix, et notamment celui de la France qui est concernée au premier chef. Et nous avons à cet égard entendu des propos encourageants sur le soutien au processus de paix de la part des émissaires français qui ont récemment visité la Syrie. S'agissant d'Israël, sa situation reste tributaire de la stabilité de son gouvernement et des conflits en son sein. Le processus de paix a besoin de stabilité et d'un leadership puissant. Faire la paix est plus difficile que de faire la guerre. C'est un enjeu israélo-israélien. Nous ne savons pas ce qui en résultera.
Mais sur ce point précis, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous attendez spécifiquement de la France ?
Si nous parlons d'un rôle complémentaire au rôle américain, la France, à travers sa connaissance de notre région et ses relations historiques avec elle, et ses liens forts dans le passé avec la Syrie, peut aider les Américains à élaborer une vision. Les États-Unis sont éloignés de cette région. Il est difficile pour eux de comprendre le détail de beaucoup d'événements qui se produisent dans cette région. Là intervient le rôle de la France, non pas en tant que simple intermédiaire, mais plutôt en tant que partenaire des États-Unis dans le parrainage du processus de paix au moment des négociations directes.
Monsieur le Président, vous venez de recevoir le responsable palestinien Mahmoud Abbas. Pensez-vous être en mesure de favoriser la réunification du mouvement national palestinien ?
Nous œuvrons pour cela et nous avons trouvé une bonne disposition du président Mahmoud Abbas. Il reste à définir un mécanisme. Nous nous sommes mis d'accord avec le président Mahmoud Abbas afin qu'il engage des négociations en ce sens avec les diverses factions palestiniennes pour dégager une vision commune d'une réconciliation nationale. Car nous ne pouvons pas parler de paix sur le volet palestinien s'il n'y a pas au préalable une unité palestinienne. Et s'il n'y a pas un progrès réel sur le volet palestinien du processus de paix, le volet syrien restera incomplet. Nous ne pourrons instaurer une paix globale seulement grâce au volet syrien. Celle-ci suppose un progrès sur les trois volets, syrien, palestinien et libanais.
Monsieur le Président, en attendant l'arrivée d'une nouvelle administration américaine, plusieurs capitales arabes craignent une opération militaire américaine ou israélienne contre l'Iran. Quelle est votre analyse d'une situation régionale qui demeure extrêmement dangereuse ?
Je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une attaque contre l'Iran ou une guerre contre l'Iran. Celle-ci et ses conséquences ne pourront être cantonnées à l'Iran, au Golfe et au Moyen-Orient. Et ces conséquences désastreuses se feront ressentir dans le monde entier, à mon avis sur les plans sécuritaires, économiques, donnant ainsi pleinement son sens au terme instabilité. C'est pour cela que la seule solution est la solution politique. Il faut que les négociations continuent et que celles menées par les États européens soient fondées sur le droit international, sur le traité de non-prolifération des armes de destruction massive. C'est la seule solution et il n'y en a pas d'autre.
Mais vous pensez qu'il y a un danger imminent d'opérations militaires actuellement contre des objectifs iraniens ?
Logiquement, je ne vois pas de justification ni de facteurs qui poussent à la guerre. Mais malheureusement, notre expérience avec l'administration américaine actuelle n'est pas encourageante. C'est une administration dont la politique est fondée sur la guerre et qui cherche à créer les prétextes pour déclencher les opérations militaires. Concernant l'Iran, je ne crois pas, contrairement à certains aux États-Unis, qu'il cherche à se doter de l'arme atomique. L'Iran dit qu'il a le droit d'avoir un réacteur nucléaire et le droit d'enrichir l'uranium à des fins civiles. L'AIEA peut superviser directement ce processus. Où est le problème s'il y a une supervision directe par l'AIEA, supervision à laquelle l'Iran ne s'oppose pas, d'après nos informations?
Monsieur le Président, pour revenir à la situation de la Syrie, des critiques sont régulièrement adressées à la Syrie, vous le savez, au sujet des droits de l'homme et quant à la situation des opposants politiques. Alors qu'en est-il, Monsieur le Président?
Nous lisons toujours dans une certaine presse occidentale que certaines personnes ont été emprisonnées en Syrie parce qu'elles étaient opposantes. Vous pouvez rencontrer dans différents lieux en Syrie des personnes qui font partie de l'opposition et qui critiquent le gouvernement et l'État. En prison, nous avons des terroristes et des personnes qui ont violé la loi. Nous avons une loi. Et ceux qui la violent subissent des sanctions pénales, parmi lesquelles la prison. Aucune personne n'a été en prison pour s'être opposée au gouvernement ou à l'État. Nous avons des terroristes qui ont menacé la sécurité de l'État, comme c'est le cas ailleurs dans le monde. Nous n'avons pas la prétention d'avoir accompli le processus de réforme et de progrès. Nous sommes engagés dans ce processus qui n'est peut-être pas très rapide, mais qui avance avec comme condition la préservation de la stabilité en Syrie. Et ce sera un processus long qui nécessitera des années. Il ne s'agit pas simplement d'édicter des lois à l'aveuglette et de récolter des résultats non prévisibles.
Le dernier rapport de la Commission internationale d'enquête sur l'assassinat de Rafik Hariri, l'ex-premier ministre libanais, ce rapport s'est félicité de la bonne coopération de la Syrie. Comment désormais évaluez-vous, Monsieur le Président, l'installation du tribunal pénal international ?
Nous avons, depuis le début, soutenu toute mesure permettant de démasquer les assassins du Premier ministre libanais Rafik Hariri, à commencer par les commissions d'enquête formées par l'ONU à la demande du ou des gouvernements libanais et pour finir, le tribunal international. Aucune partie, à ma connaissance, en Syrie ou au Liban, ne s'oppose à l'institution de ce tribunal. Ceci ne signifie pas que la Syrie remette en cause sa souveraineté. La coopération avec le tribunal international suppose un accord entre la Syrie et l'ONU à ce sujet. Mais s'agissant de la coopération, nous n'avons aucun problème.
Enfin, pour terminer, Monsieur le Président, en revenant à la relation franco-syrienne et syro-française, Monsieur le Président, quelles sont vos principales attentes de votre séjour parisien ?
La première attente concerne la paix. Nous allons discuter avec le président Sarkozy et nous allons inviter la France à agir avec nous de manière plus active au sujet de la paix. Il y a aussi la question des relations économiques qui comportent plusieurs aspects dont l'énergie, la prospection pétrolière. Nous allons évoquer toutes ces questions avec le président Sarkozy. Il y a d'autres questions que nous allons aborder. Il y a bien sûr la question de l'Irak avec tous les dangers qu'elle comporte. La question du terrorisme à laquelle nous sommes confrontés en Europe et au Moyen-Orient. Il y a aussi le sujet central, l'Union pour la Méditerranée. Comment mener à bien cette idée? Elle est très bonne, mais elle a besoin d'un mécanisme réaliste de mise en œuvre qui tienne compte de la situation de notre région et de la situation européenne. Toutes ces questions sont de grandes questions et il y a beaucoup de détails qui s'y rattachent.
Donc vous pensez que ce sera le début d'une nouvelle page dans la relation franco-syrienne et d'une page positive?
En réalité, ces relations ont souffert sur le volet politique, mais pas sur d'autres volets. Je veux dire que nous allons ouvrir une nouvelle page au niveau des relations politiques et renforcer la coopération dans d'autres domaines et surtout dans le domaine économique.
Merci, Monsieur le Président.
Merci
à vous.